Journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. 24 rafales sur le point d'être vendues au Qatar. Les contrats seront signés lundi à Doha. Avec Camille Labrousse, nous verrons pourquoi nos avions de combat ont séduit les Qataris. Après Paris, le parquet de Bangui ouvre sa propre enquête sur les abus sexuels dont sont accusés des soldats français en Centrafrique. Ce matin, François Hollande a promis d'être implacable si les faits étaient avérés. Le bilan du séisme au Népal dépasse les 5800 morts et devrait encore s'alourdir. Dans les zones les plus sinistrées, des tensions se font sentir, comme en témoigne un reportage d'Alice Serrano. À 18h20, les robots envahissent du grain à moudre, Mélanie Chalandon.
Absolument, à la veille du 1er mai, nous nous demanderons si les robots défileront à notre place pour la fête du travail, avec Robin Rivaton de la Fondapol, Catherine Simon, organisatrice de Salon de la robotique InnoRobo, et Blaise Mao, rédacteur en chef adjoint de la revue Ouzbek Erika.
A tout à l'heure. Après les déconvenues, voici le temps des succès pour le Rafale. Après l'Inde et l'Égypte, l'avion de combat français a séduit le Qatar, qui s'apprête à commander 24 Rafales, le contrat prévoyant 12 autres avions en option. François Hollande se rendra lui-même à Doha lundi et assistera à la signature. Bonsoir Camille Labrousse.
Bonsoir.
Alors, du point de vue du Qatar, quel est l'intérêt de se procurer des Rafales aujourd'hui?
Eh bien, déjà parce que le Qatar est un partenaire ancien de la France et de Dassault. Il a aujourd'hui une vingtaine d'avions de combat français, des Mirage pas tout récents qui datent des années 80. Et il lui faut donc renouveler sa flotte. Et ça tombe bien, puisqu'autour du Qatar, les autres pays du Golfe aussi s'équipent en avions militaires. C'est ce qu'explique François Rivet. Il est général de l'armée de l'air à la retraite et chercheur sur la géopolitique de l'espace aérien.
L'Arabie Saoudite a acquis assez récemment des avions de combat américains en grand nombre, des F-15. Les Émirats Arabes Unis sont sur le point depuis plusieurs années d'acquérir des avions de combat. Le Koweït y songe aussi, donc je crois que c'est une logique stratégique. Alors, on peut pas dire que ce soit une région du monde qui se distingue par son niveau de paix. Je crois que c'est des pays qui ont besoin de montrer qu'ils existent et qu'ils ont la capacité à résister. Et pour montrer qu'on a une capacité à résister aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une capacité aérienne efficace, c'est-à-dire montrer une volonté en montrant qu'on est capable d'intercepter assez rapidement une menace.
Et pour ça, le Rafale ne semble pas avoir d'équivalent moins cher que les avions de guerre américains, capable à la fois de défense aérienne, d'attaque au sol ou de reconnaissance, et qui a déjà fait la preuve de tout ça. Un gros avantage pour le Qatar, même si 24 appareils, ce n'est pas énorme pour une flotte. Le Qatar qui donc n'investit plus seulement dans les secteurs économiques.
C'est vrai qu'il prend un peu le leadership. Tout ça, c'est affaire d'affrontement de volonté avec les moyens pour faire valoir sa volonté dans des domaines très divers. Très divers. Ça peut être le rôle dans cet espace géographique, ça peut être un rôle sur le plan politique mondial par rapport à d'autres pays non alignés, par rapport à d'autres puissances émergentes, En tout cas, ça donne du poids.
Voilà. Le premier appareil devrait être livré en 2017. L'accord prévoit aussi de former une quarantaine de pilotes ainsi que plusieurs dizaines de mécaniciens.
Merci Camille Labrousse. François Hollande promet d'être implacable si les faits sont avérés et l'armée assure qu'il n'y a aucune volonté de cacher quoi que ce soit. C'est pourtant le journal britannique The Guardian qui a révélé hier cette affaire de viol que des soldats français auraient commis en Centrafrique. Selon un rapport interne de l'ONU, des enfants centrafricains se sont plaints d'abus sexuels perpétrés par des militaires français entre décembre 2013 et juin 2014. Une enquête préliminaire a été ouverte en juillet dernier par le parquet de Paris et le parquet de Bangui vient d'ouvrir à son tour une enquête. Anthony Fouchard de RFI s'est rendu dans un camp de réfugiés près de la capitale centrafricaine et là-bas, la colère gronde.
Le camp de l'aéroport de Bangui, c'est un vaste terrain vague, poussiéreux, où s'entassent les carcasses d'avions. Au plus fort de la crise centrafricaine, entre décembre et juin 2014, des milliers de déplacés sont venus se réfugier ici, sous protection entre autres des soldats français. C'est à ce moment que les violences sexuelles auraient eu lieu. Myriam vit dans le camp avec ses trois enfants. Elle dit avoir été témoin de viols commis sur des mineurs.
Les Français, les Géorgiens, là, quand les enfants viennent comme ça, ils demandent « Papa, donne-moi un peu à manger, j'ai faim là ». Les Sangaris et les Géorgiens vont dire que « Avant de te donner ça, il faut que tu me suces d'abord avant que je te donne ». Mon sentiment, ça me fait très mal. Mon sentiment là, j'ai même pas le sentiment. J'ai même pas le courage.
Le camp de Mpoko est divisé en zones pour faciliter l'action humanitaire. Paul est le chef de la zone 1. Il affirme que ces viols ont été nombreux et étalés sur une période de plusieurs mois.
C'était la nuit. Les militaires français ont donné des petits paquets de rations aux enfants et ils les violent. Et d'autre part aussi, les militaires géorgiens, j'étais présent quand ils étaient trois sur une fille de de 16 ans dans leur guérite à l'entrée de l'aéroport.
Quelques centaines de mètres plus loin, à l'entrée du camp Poco, la tente de François, 65 ans, est située juste en face de la guérite où sont positionnés les militaires. Le vieil homme oscille entre colère et résignation.
Ils étaient là, leur guérite était ici. Quand les femmes passaient, ils les appelaient, ils les approchaient et puis ils faisaient la cour avec eux. En pleine piste là, ils étaient là, ils faisaient la cour avec les femmes. Et les Godebé étaient là pour voir ça. Bon, c'était des soldats français et les Georgiens qui étaient venus là, qui parlent un peu le russe là. C'était avec eux aussi. Ça nous choque, parce que ça c'est être animal, pour faire en plein air comme ça. Franchement, quand on est censé comprendre et nous sommes dans la souffrance, ils sont venus encore faire des choses comme ça, c'est pas bon.
Sur ce sujet sensible, difficile de distinguer le vrai du faux. Le procureur de la République de Bangui a ouvert une enquête et des agents de la section de recherche et d'investigation sont déjà sur le terrain pour recueillir des témoignages.
Et que s'est-il passé pour les enfants qui ont accusé les soldats français d'abus sexuels? Ils ont été interrogés en mai et juin 2014 par un agent du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme en présence de personnel spécialisé dans la protection de l'enfance. Écoutez les précisions du porte-parole de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Thierry Delvigne, joint par Valérie Crova.
Le travail de l'UNICEF s'est porté principalement au début, donc les interviews avec les enfants et donc de transmettre leurs propos, leurs histoires aux autorités des Nations Unies. Et par la suite, évidemment, et tout aussi important, sinon plus, c'est de, pour nous, pour l'UNICEF, de s'assurer que ces enfants puissent bénéficier de soutien psychologique. Et donc, on s'est assuré aussitôt de mettre ces enfants, de les faire prendre en charge par une organisation partenaire à Bangui, qui les a pris en charge et qui leur a fourni une aide psychosociale, un premier secours psychologique, qui leur a fourni un accès aux soins médicaux, si besoin était, qui leur a aussi proposé une assistance légale. Et évidemment, il y a eu des travailleurs sociaux qui ont effectué des visites de suivi des enfants.
Vous avez une idée de leur âge ?
Je n'ai pas les âges précis, mais on parle d'enfants une dizaine d'années.
Ils sont toujours à Bangui actuellement ?
D'après les informations, oui, ils sont en sécurité. C'est pour nous crucial que ces enfants soient protégés avant toute chose et que leur identité ne soit pas révélée. Et il peut toujours y avoir des répercussions et ce sont des principes de base pour l'UNICEF.
Thierry Delvigne, l'un des porte-parole de l'UNICEF. Les actionnaires de Renault donnent raison à l'État français face à Carlos Ghosn. Réunis en Assemblée générale, ils viennent de voter pour l'application d'une loi anti-spéculation, le principe des droits de vote double défendu par le gouvernement, alors que la direction de Renault s'y opposait. La Haute-Garonne mobilisée contre la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, alors que la société de gestion de l'aéroport doit réunir son Assemblée générale mardi, en présence de son nouvel actionnaire chinois, le Conseil départemental de Haute-Garonne vient de voter en faveur du rachat des 10% encore en possession de l'État, et ce pour préserver la majorité publique du capital. Les précisions de Stéphane Iglesis à Toulouse.
L'État a vendu au consortium chinois Symbiose un peu moins de 50% des parts de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse. Les collectivités locales et l'État possèdent encore 50,1% des parts de cette société de gestion. Prudence étant mère de sûreté, le président socialiste du département de Haute-Garonne propose à la région, à la métropole toulousaine et à la chambre de commerce de racheter les 10% que possède encore l'État dans cet aéroport. Georges Méric, son président.
Pour maintenir l'aéroport dans le domaine public, le mieux c'est d'avoir 51,01% des actions et les bloquer dans un pacte d'actionnaires. Donc je propose à M. Malvi, à M. Moudin et à M. Di Crescenzo de se réunir pour proposer à l'État de racheter les 10,01 et avoir un pacte d'actionnaires qui permette de figer l'actionnariat sur du public.
L'opposition UMP-UDI s'est abstenue, mais sur le fond, Marion Lalanne de Loubadère approuve l'orientation de ce vœu.
J'ai souligné bien évidemment que nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui si le gouvernement socialiste n'avait pas vendu, donc je trouve assez cocasse que des collectivités territoriales socialistes posent des révolutions des vœux contre la vente de l'aéroport, alors même que c'est un gouvernement socialiste qui fait cette vente et que sans ça, nous n'en serions pas là aujourd'hui.
La première assemblée générale de la société de gestion de l'aéroport mardi devrait permettre d'en savoir plus quant aux intentions de l'actionnaire chinois.
Les agents de France Télécom intervenant sur les lignes et centraux téléphoniques sont exposés à un risque radioactif. Un rapport d'expertise CHSCT confirme des informations révélées il y a 2 ans par le magazine Santé et Travail. Certains agents sont exposés à des rayonnements ionisants significatif lors de contact avec des parafoudres, et ce depuis des décennies, Romain Chanson.
Dès 2006, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Auvergne avait alerté la direction de France Télécom de ce risque. Clotilde de Gatine est journaliste au magazine Santé et Travail qui suit le dossier depuis 2011. Pour elle, France Télécom réagit bien tardivement.
C'est un peu un serpent de mer. Ça fait assez longtemps que France Télécom est au courant du problème. Les parachurtenseurs radioactifs ont été interdits en 1978.
70 000 parafoudres ont déjà été prélevés en Auvergne. Yves Colombat récolte ces petites ampoules au sein de la mission de recherche et d'évacuation et la tâche est immense.
Pas plus tard que ce matin, moi j'ai découvert des parafoudres qui pourtant sont réputés ne pas émettre réellement. Et puis là, sur les parafoudres, les mesures étaient du double. Le double de ce qu'il y a dans la nature.
En France, il y aurait des millions de parafoudres à retirer. Roland Debord est président d'une commission de recherche indépendante sur la radioactivité. Il demande à France Télécom d'organiser rapidement un grand ménage.
Aller chercher dans tous les coins où on a pu installer ou stocker ou entreposer ce genre de parafoudres dans tous les bâtiments, parce qu'on s'aperçoit qu'on en a trouvé à des endroits dans des placards, dans des armoires, dans des locaux où ils ont été posés là et puis oubliés. Voilà.
France Télécom s'est engagée à faire retirer ces vieux parafoudres aujourd'hui en matière céramique. Le chantier de dépollution devrait durer 8 ans.
Quelques instants de joie et un profond désespoir. Au Népal, les sauveteurs ont réalisé deux miracles aujourd'hui à Katmandou. Ils ont sorti des décombres une femme et un adolescent encore vivants et conscients. Mais 5 jours après le séisme, le bilan continue de s'alourdir. Il dépasse désormais les 5800 morts. Et pour les survivants, le temps semble très long, sans logement, sans nourriture et parfois sans eau. Écoutez le reportage d'Alice Serrano à Katmandou.
La grogne est sourde, discrète, pas d'effusion, pas d'emportement exagéré. Les Népalais que l'on a rencontrés sont calmes, mais très critiques à l'égard de leur gouvernement. Je dors dehors avec mes enfants depuis samedi, témoigne ce père de famille. Je ne sais pas si je peux rentrer chez moi. L'État ne nous explique rien, ne nous rassure pas. Je n'ai vu aucun homme politique dans les camps pour nous dire « voilà, c'est fini, ne vous inquiétez pas, l'État est là ». Les autorités doivent avoir un rôle protecteur, poursuit Jiri. L'État, normalement, c'est un peu comme un père, comme une mère, indique cet homme physique athlétique. Dans les moments difficiles, il doit aider ses enfants. Mais le gouvernement ne fait rien pour nous. L'État a abandonné son peuple. Une grogne que ce policier comprend, il tente de se justifier. On entend la colère de la population. Chacun d'entre nous connaît quelqu'un impacté par le séisme. Mais c'est aussi très difficile, vous savez. On n'est pas nombreux et 90% de nos effectifs travaillent sur le terrain pour aider les Népalais. Les moyens de ce pays, l'un des plus pauvres de la planète, sont dérisoires. Hier, l'armée a déblayé les rues d'un village à la main et son unique hélicoptère est tombé en panne.
L'ONU a promis des tentes, du matériel médical, de l'eau et des équipements sanitaires, mais les opérations de recherche et de secours sont encore très limitées en dehors de Katmandou. Certains villages particulièrement touchés sont très difficiles d'accès. Depuis samedi, une équipe de médecins du monde travaille dans le district du Sindhulpalchok, qui fait partie des plus sinistrés. Le chirurgien Gérard Pascal est arrivé avec un premier stock de matériel médical. Écoutez son témoignage recueilli par Sophia Anastasio.
90% des maisons sont totalement détruites. Les routes sont endommagées avec des éboulements. Il y a eu des coulées, probablement des coulées de boue. Mais sauf que le temps là, a été un petit peu plus sec là, depuis 24-48 heures. Et donc ces coulées de boue ont séché. Enfin, donc là, on est face à une zone extrêmement sinistrée. Hein. Ce district, à l'évidence, a été l'épicentre d'un autre tremblement de terre. Hein, parce que ça n'a rien à voir avec la situation qu'on a rencontrée dans la capitale. Hein. Alors les gens, ils vivent dans des tentes. Ils commencent spontanément, si vous voulez, à se réunir. Il y a un grand espace là qui est une grande zone qui fait à peu près l'équivalent d'un terrain de football, quoi. Alors soit ils passent la nuit à la Belle Étoile dans des conditions épouvantables, soit ils trouvent une solution de refuge chez quelqu'un dont la maison n'est pas complètement détruite.
Est-ce qu'il y a des risques d'épidémie avec ces conditions de vie, ces campements ?
Il semble que l'accès à l'eau ne pose pas trop de problème, qu'il soit provisionné quand même en eau par les autorités sanitaires locales, là, qui commencent à intervenir assez activement. Donc voilà, mais bien entendu, il y a les risques. Hein. Il y a les risques. La présence d'eau stagnante comporte le risque majeur de choléra. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas déclaré de choléra dans ce district. Il y a eu beaucoup de blessés à soigner, des blessés graves à opérer, qui ont été pris, enfin, quand ils ont pu transférer dans les hôpitaux de Katmandou, ils ont été pris en charge. Il y a un afflux d'aide internationale à Katmandou. Mais je pense que les autorités, clairement, ont raison de dire que les besoins sont couverts. Hein. Par contre, là, dans les vallées, dans cette zone montagneuse, dans ces villages enclavés, il y a des gens qui n'ont pas eu accès à quoi que ce soit depuis le tremblement de terre. C'est une catastrophe. C'est vers eux qu'il faut aller. Et c'est là où Médecins du Monde a toute son expertise. Parce que, donc, on va développer, on va mettre des moyens, de gros moyens, pour développer des unités mobiles pour rayonner. Alors, d'abord, évidemment, dans ce district de Chéopatchouk et ailleurs après s'il le faut. Hein. Donc, on est là pour rester, évidemment.
Le chirurgien Gérard Pascal de Médecins du Monde et le Quai d'Orsay a confirmé aujourd'hui le décès de 3 Français au Népal, mais on est toujours sans nouvelles d'environ 200 compatriotes. Le régime de Bachar el-Assad est-il en train de s'affaiblir ? Depuis un mois, les troupes syriennes ont essuyé de sévères revers dans le nord-ouest du pays. Elles ont dû se retirer de la ville d'Idlib avant de devoir évacuer Jisr al-Sugur. Alors qu'il est 150 combattants loyalistes sont assiégés dans un hôpital de la ville. Les troupes gouvernementales ont été mises en difficulté par une coalition menée par le Jabhat al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Alors que peut faire le régime, confronté une nouvelle fois à un manque d'effectifs ? Écoutez l'analyse de Thomas Pierret, spécialiste de l'islam politique et de la Syrie à l'Université d'Édimbourg.
D'abord, on a des mobilisations de milices supplétives, soit dans des minorités religieuses, hein, c'est-à-dire par exemple druzes ou chrétiennes à une moindre échelle, ou alors dans certaines tribus bédouines à l'est du pays. Le problème de ces combattants, c'est que ce sont par définition des combattants locaux qu'on ne peut pas déplacer d'un front à l'autre. L'autre tentative de résoudre le problème, c'était d'importer des combattants étrangers. Donc généralement des islamistes chiites pro-iraniens, donc recrutés par l'Iran, que ce soit des membres du Hezbollah libanais, de milices chiites irakiennes, des combattants afghans recrutés, payés par l'Iran. Mais là, c'est aussi quelque chose qui a ses limites, tout simplement. Bah, si vous prenez les milices chiites irakiennes, elles ont fort à faire en Irak avec la lutte contre l'État islamique. Le Hezbollah n'a pas les effectifs qui lui permettraient de couvrir la Syrie. Voilà, toutes ces choses coûtent fort cher à l'Iran aussi, hein, ce qui, dans un contexte de baisse des prix du pétrole, n'est pas forcément tenable à long terme. Donc je pense que ce problème va aller en s'accentuant. Ça ne signifie pas que le régime syrien va tomber demain, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand il se retire de régions comme la région d'Idlib aujourd'hui, cela veut dire que ce sont aussi des fronts en moins à défendre, donc avec des effectifs qu'on peut allouer à la défense de régions, on va dire, qui sont plus haut dans l'ordre des priorités.
Comme Damas, par exemple.
Damas, bien sûr, la région de l'Attaquié, voire encore même Alep. Hein, donc on est dans un processus d'érosion qui est, je pense, irréversible, mais qui est probablement très lent.
Thomas Pierret répondait à Mathieu Laurent. Un projet de loi sur l'édition fait polémique en Algérie. Les députés doivent voter lundi ce texte qui réglemente l'édition. Objectif affiché, dynamiser le secteur et vulgariser la lecture. Mais le projet de loi provoque l'inquiétude des auteurs, des libraires et des éditeurs qui le perçoivent comme une tentative de contrôle. L'éclairage de Leïla Berato à Alger.
Libraires et éditeurs répètent depuis des années qu'ils sont en difficulté et ils réclamaient de l'aide des autorités, comme l'explique Abderrahmane Ali Bey à la tête de la librairie du Tiers-Monde dans le centre d'Alger.
Toujours les gens posent la question pourquoi les librairies ferment, se transforment en pizzeria, pour la simple raison que une librairie, pour le ministère ou pour l'État, est considérée comme un autre magasin. Si vous voulez que des gens investissent dans l'ouverture des librairies, que ce soit en ville ou à l'intérieur du pays, il faudrait encourager, supprimer ou diminuer certaines taxes.
Mais si l'objectif était de dynamiser l'économie du livre, le projet de loi comprend des articles qui fâchent. Constitution, religion, sûreté de l'État ou encore intérêt national, toute une série de thèmes devront être respectés par les ouvrages, sous peine d'une amende allant de 5 000 à 10 000 euros. C'est ce qui provoque la colère de Wadi Boussad, libraire et responsable des éditions INAS.
C'est une loi répressive. Il n'y a que des interdits. Au nom de la religion, au nom de la patrie, au nom de la nation, la culture, ce n'est pas que ça. Or, cette loi ne fait que ça. Elle codifie tout. Tout doit être soumis à des autorisations. Il y a quelques intentions louables, mais ces intentions louables sont tout de suite contrebalancées par des dispositions extrêmement rigides, attentatoires aux libertés et lourdes de menaces pour la liberté de création et la diffusion de la culture et du livre en Algérie.
Avec ce texte, toute manifestation liée au livre comme des séances de dédicace seront désormais soumises à l'autorisation du ministère de la Culture. Comme les partis présidentiels ont la majorité, le texte devrait être adopté lundi au Parlement, malgré les inquiétudes.
La météo, la journée de vendredi sera généralement pluvieuse. L'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en alerte orange pluie inondation. L'après-midi, les températures iront de 10 degrés en Lorraine à 20 en Languedoc-Roussillon. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. C'est Lucas Valdener qui présentera les informations de 22h.